Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, je m'inspire pour cette série d'émissions de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais qui est toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous dans cette réflexion sur la culture générale? Nous en sommes au chapitre 5 de mon ouvrage, à la fin de ce chapitre 5 qui est consacré à l'homme symbolique. Et donc, la dernière fois, nous avions évoqué la bipolarité apollinien-dionysiaque et nous avions vu que l'homme voulait toujours s'identifier à sa part de lumière, incarnée par Apollon, Phoibos, la lumière, le soleil, et que parfois il oubliait sa part d'ombre, incarnée précisément par Dionysos. Cette opposition apollinien-dionysiaque vient de Nietzsche dans son ouvrage « L'origine de la tragédie ». Eh bien, réfléchissons maintenant sur ce que j'appellerais les impasses anthropologiques. Toujours dans ce portrait de ce qu'est l'homme symbolique. Une impasse anthropologique consiste dans le fait de ne choisir qu'un pôle par rapport à l'autre, à l'exclusion de l'autre, et dans le cas qui nous concerne, le pôle apollinien par rapport au pôle dionysiaque. Prenons par exemple la culture grecque. Une certaine représentation au moins que nous nous faisons de cette culture, elle nous a habitués à la beauté, à l'harmonie, à l'ordre. Mais songez que ce n'est là qu'un aspect de l'être. L'art grec n'a pas représenté de monstre. Et pour cela, un esthéticien comme Éliphore déclarait que cet art était précisément monstrueux. On ne réfléchit pas assez aux impasses et à la limitation anthropologique qu'une telle vision, l'exclusion des monstres, suppose. Et Nietzsche disait dans « La naissance de la tragédie » « Il y a entre l'art grec et la vie le même rapport qu'entre la vision du martyr et les souffrances qu'il endure ». Donc vous voyez que beauté, équilibre, harmonie ne sont pas tout dans l'homme, non plus qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas le tout de l'homme. La culture, l'ordre et la beauté ne sont pas toujours synonymes. Il ne faut pas, par exemple, en esthétique, confondre l'art avec les beaux-arts. Il y a aussi, à côté des musées des beaux-arts, le musée de l'homme, par exemple, où on voit d'où l'homme est parti pour se dégager, peut-être, de cette origine. Le peintre Degas disait à quelqu'un qui lui parlait des beaux-arts, « Les beaux-arts, si c'est ça l'art, je m'en vais ». Il le disait même plus trivialement au lieu de « je m'en vais », vous voyez. Bon, l'art n'est pas que les beaux-arts. Prenons par exemple le célèbre chœur d'Antigone de Sophocle. On le traduit souvent par « il y a bien des merveilles en ce monde, mais la plus grande, c'est l'homme ». Et alors sur ce texte est basée toute l'image que nous nous faisons de l'humanisme grec. Mais il n'est pas sûr qu'il faille traduire ainsi l'expression grecque. L'expression grecque, c'est « polata deina ». On traduit, il y a les choses merveilleuses sont en très grand nombre, mais ce n'est pas, on peut traduire autrement. Par exemple, le philosophe Heidegger proposait de traduire pollata deina par multiple et l'effrayant. Alors pourquoi faisait-il ça? Eh bien parce que deinos, perd à être traduit de façon angélique, merveilleux. Deinos, c'est ce que vous trouvez dans des mots français comme dinosaure, qui veut dire un saurien, sauros, un saurien effrayant, deinos. Donc l'homme est capable de transgression des lois et il y a en lui une part de gouffre. C'est pour ça que Heidegger choisissait multiples et l'effrayant. Nous pensons et nous disons ordinairement que la Grèce a choisi dans l'homme sa part de lumière à l'exclusion de l'autre, mais ce n'est peut-être pas sûr. Ça tient parfois, comme dans le cas qui nous occupe, à une histoire de tradition et de traduction, les deux à la fois, traduction et tradition. Prenez le cas de la beauté. La beauté, par rapport à ce qu'est notre vie qui est souvent décevante, la beauté est parfois insupportable parce qu'elle est irréelle, insupportable d'irréalité. Rimbaud écrit dans Une saison en enfer « J'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai insultée », vous voyez. Et par exemple, voyez la fin du poème de Rimbaud « Vénus anadiomène ». Anadiomène, anadioménos, anadioméné en grec, c'est qui sort des flots, Vénus sortant des flots. Eh bien, la fin de ce poème, c'est belle hideusement d'un ulcère à l'anus, vous voyez. Alors, nous sommes bien loin de la Vénus émergente de l'onde, comme on le voit par exemple dans le célèbre tableau de Botticelli. Alors, l'iconoclasme, le fait de briser des images de ce type, parce qu'on les sent provocantes, s'explique souvent par ce sentiment sauvage d'insurrection. Par exemple, Hérostrate avait incendié le temple d'Artémis à Éphèse. Ce temple était une des sept merveilles du monde. Et on peut effectivement incendier un temple qui nous provoque par sa plus extrême beauté. Et c'est ce que fait le héros du pavillon d'or de Mishima, dans ce roman. Il incendie justement ce beau temple qui le provoque parce qu'il le sent comme trop étranger à sa vie elle-même, à tout ce qu'il sent en lui de démonique ou de démoniaque. Nous avons parlé de cette notion dans les émissions précédente. Alors, par réaction contre cet humanisme, on peut vouloir, par exemple, tirer au revolver, au hasard dans la foule, quand le discours lénifiant des humanistes nous anesthésie. C'est l'acte poétique élémentaire, selon Breton. Et c'est aussi la version moderne d'Hérostrate que Sartre donne dans Le Mur, vous voyez. Hérostrate ne supportait pas que son nom fût inconnu. Et alors, il a incendié ce fameux temple. Et effectivement, bien lui en a pris, puisqu'on continue de le citer. Même si ses contemporains avaient voulu proscrire justement la prononciation de son nom. Ainsi, vous voyez que l'homme peut mourir justement de trop de représentations idéales. La morale, disait Rimbaud, c'est la faiblesse de la cervelle, vous voyez. Et l'homme peut mourir de ce que Nietzsche appelait la moraline, c'est-à-dire le désir de tout justifier et de donner un sens à tout. Alors, de la même façon, la poésie, elle serait le contraire de ce qu'on entend par poésie. Et le style serait le contraire du style, c'est-à-dire du bien dire, du bien s'exprimer. C'est ce que Aragon soutient dans le traité du style. Alors, s'agissant de la beauté, je pense qu'aujourd'hui, il y a une édulcoration de la beauté. Et beau ce qui plaît, bon, on le dit encore, mais c'est confondre la beauté et l'agréable, c'est confondre la beauté et la joliesse. Le lumineux disparaît alors de la beauté. On oublie la mort de tous ceux qui, dans la mythologie, ont été confrontés à la beauté absolue. Par exemple, Sémélée, qui avait voulu voir Jupiter, a été réduite en cendres par cette vision, comme il se voit dans le tableau de Gustave Moreau, Jupiter et Sémélée, ou bien encore Actéon qui avait vu Diane ou Artémis se baignant toute nue dans une rivière et qui fut châtillé par la déesse, il fut changé justement en cerf et il fut dévoré par ses propres chiens. Actéon était un chasseur. Donc Actéon a été submergé par ses pulsions, c'est ça le sens symbolique de la dévoration par les chiens. Et alors, on oublie le fameux interdit biblique « Nul ne peut me voir et vivre », dit Dieu à Moïse. Moïse lui dit « Fais-moi voir ta face », et puis Dieu répond « Nul ne peut me voir et vivre ». C'est dans l'Exode, je crois que c'est au chapitre 33, à vérifier. Donc, le beau, justement, suscite en nous un certain effroi, l'effroi du beau. Il y a un livre de Jean-Louis Chrétien là-dessus, l'effroi du beau. Et Rilke, dans ses élégies à Duino, nous dit que le beau n'est que le commencement du terrible, vous voyez. Donc, il ne faut pas trop se gargariser du beau et se familiariser avec lui. Et Borges, dans un texte de fiction qui s'appelle « Le miroir et le masque », montre que la beauté, c'est un poignard qui nous transperce. Pareillement font les cinéastes, par exemple Visconti dans « Mort à Venise » ou même Bertrand Blier dans « Trop belle pour toi », vous voyez. Parce que la beauté s'adultère et se dégrade en devenant le kitsch. En fait, la beauté n'est que la promesse du bonheur, comme disait Stendhal. On peut décider alors de faire, de façon iconoclaste, des inversions. Vous voyez, par exemple, le beau est affreux, l'affreux est beau. Fair is fool, fool is fair, dans Macbeth de Shakespeare, vous voyez. En fait, il ne faut pas oublier la négativité. L'horreur, elle est humaine. On dit l'erreur est humaine. Je dis l'horreur est humaine. Et Genet, dans Notre-Dame des Fleurs, nous dit que le seul moyen de résister à l'horreur, c'est de s'y plonger. Donc, vous pouvez avoir une folie réactionnelle et qui meurtrière. Qui viendrait en comparaison du paternalisme bourgeois. Je pense par exemple au film de Chabrol « La cérémonie » qui est fait à partir de l'analphabète de Ruth Rendall. Donc on assiste à la fin à un carnage sur fond de musique de Mozart. Donc le contraste est évident. La culture idéale, pacifiée, irénique, Mozart, et puis les coups de feu et le massacre de cette famille bourgeoise qui a le tort d'être paternaliste justement avec la bonne qui ne sait pas lire, vous voyez. Donc on peut passer, et le cinéma le montre aussi, du golden boy qui valorise son apparence et sa carte de visite au simple serial killer. C'est le film américain American Psycho. Donc Thomas Mann dans Mort à Venise nous dit que c'est à l'abîme que mène la beauté. Donc la beauté peut nous engloutir, peut nous détruire, nous réduire en cendres. Et il ne faut pas oublier cela, il ne faut pas justement la banaliser au point de la réduire à l'agréable. Voilà, continuons donc cette réflexion réfléchissons à ce qu'est la psychologie de la transgression. Pourquoi transgresser ? Pourquoi détruire justement quelque chose qui est trop beau, excessif, too much comme on dit, c'est-à-dire trop éloigné de notre vie ? Alors prenons quelques exemples. La sauvagerie. Elle ne s'éveille pas forcément dans l'homme en période troublée, à l'occasion des guerres ou des conflits, par exemple, parce que l'âme de l'homme peut alors au moins s'ouvrir à la pitié. La visite d'un hôpital ne nous rend pas cruels. Mais ce qui peut nous rendre cruels, c'est précisément le kitsch, les paillettes et le strass de la télévision, par exemple. Supposons une belle fin d'après-midi d'été, au bord d'une belle pelouse, inondée des rayons du soleil couchant, dans un décor idyllique ou paradisiaque. Eh bien, c'est alors que la cruauté peut faire irruption dans notre âme. Nous pouvons sentir jusqu'à la nausée l'indifférence de la nature et l'artifice de tout ce décor par rapport à ce que nous sommes aussi au fond de nous-mêmes. Voyez ce que dit Baudelaire dans un poème qui s'appelle « À celle qui est trop gaie ». Quelquefois, dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Vous voyez ? Donc le poète sent dans la beauté des choses, dans la beauté de la fleur, une insulte, une provocation à son propre mal-être, à son propre malheur intérieur. Et alors il prend rageusement une fleur et il l'arrache. Alors, les films d'épouvante aussi, j'aime beaucoup les films d'épouvante. Pourquoi ? Parce qu'ils disent des choses sur l'âme humaine et sur l'homme symbolique en général. Ils jouent souvent là-dessus. Ils commencent dans le calme, l'anodin, ce qu'on appelle l'irénisme, du grec aïrénie qui veut dire la paix. Hein. On a des beaux quartiers, des belles pelouses, etc. Et ils s'achèvent dans la sauvagerie et dans l'horreur. Eh bien, il y a une signification symbolique à ce passage, à cette transition. Car ce n'est pas toujours la vue du sang qui trouble ou scandalise, mais parfois tout ce qui nous le fait oublier, le sang. Hein. Un être humain n'est pas seulement sa peau ou son bel aspect, il est tout ce qu'il y a en dessous, les nerfs, les viscères, les organes, la chair. Hein. Sous la peau, il y a les veines, la sanie, comme on dit, les os. Hein. Prenons le son de l'anatomie, de la dissection, de l'opération chirurgicale, etc. Donc je dirais que l'être, l'homme symbolique en général, pour reprendre le sujet de mon chapitre, a deux pôles, la Vénus de Milo, pôle apollinien, et l'écorché. L'écorché, vous voyez, toute haute culture montre les deux pôles. Et toute culture abâtardie nie justement l'existence du pôle obscur. La culture, me semble-t-il, doit rendre compte de l'homme complet. Voyez ce que dit Nerval en regardant des roses blanches qui sont le symbole justement de la pureté hein, en christianisme. Il dit « Rose blanche, tombez, vous insultez nos dieux, la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Hein. » C'est-à-dire, il n'y a pas justement que la pureté dans la vie. Hein. Il y a aussi la négativité. Et Harold Pinter disait, une phrase qui me fait toujours impression, hein, il disait « Ce qui me fait le plus peur au monde, c'est juste une tondeuse à gazon sur une pelouse. » Alors vous allez me dire, mais pourquoi aurait-on peur d'une tondeuse à gazon sur une pelouse ? En fait, on peut avoir peur de ce qui est caché derrière la tondeuse à gazon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Une vie petite bourgeoise, sans vagues, une vie modérée et chantante, moderato cantabile, comme le dirait Duras. Hein. Et cette vie, c'est une abdication. En fait, elle cache des gouffres. Je pense au film américain American Beauty. Hein. Le décor idyllique de nos quartiers bourgeois, justement, n'a rien à voir avec ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Il y a une ironie du beau par rapport à ce que nous sommes. Hein. Nous attendons dans la beauté des choses, quelque chose qui ne viendra jamais, qui ne vient jamais. Hein. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Dit Perrault dans La Barbe Bleue, vous voyez. Hein. Donc l'homme attend dans la beauté absolue de la nature, hein, le soleil, etc. Et il attend quelque chose, cette chose ne se produit pas, vous voyez, n'attend pas. Hein. La nature, hein, si on réfléchit à ce qu'elle est, hein, elle n'est pas maternelle, pas du tout. Hein. Voyez ce que dit Vigny dans La Maison du Berger, « Vivez froide nature et revivez sans cesse hein, » vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi. Il dit aussi, on me dit une mère et je suis une tombe. Hein, à la différence de Lamartine qui disait, mais la nature est là, qui t'invite et qui t'aime. Plonge-toi dans son sein, qu'elle t'ouvre toujours. Si tout change pour toi, la nature est la même et le même soleil se lève sur tes jours. Eh bien, ça c'est de la pacification en quelque sorte et de l'idéalisme. C'est Vigny qui a raison. Hein, la nature se moque complètement de nous. Hein. Vigny, c'est le seul poète totalement athée de la génération romantique dans la littérature française, vous voyez. En fait, il y a un contraste entre la nature éternelle et puis l'homme mortel. Hein. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent, dit Victor Hugo, hein, dans les Contemplations, à propos de la mort de sa fille, Léopoldine. Hein. Mais regardez aussi ce que dit Sully Prudhomme à propos des yeux, les yeux qui ont éclairé le visage des êtres que nous avons aimés, ils dorment dedans les tombeaux et le soleil se lève encore, vous voyez. Donc le soleil continue de se lever, même si ses yeux se sont fermés. Alors la beauté, je dirais, c'est un aguichage, Constance, c'est un teasing. Teasing en anglais, c'est aguichage. C'est un teasing décevant. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Paul Jean Toulet dit dans Arles, dans un poème qui s'appelle Dans Arles, prends garde à la douceur des choses, hein, puisque justement on ne sait pas de quoi demain sera fait. Prends garde à la douceur des choses, parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes. Lisez-le, ce poème qui s'appelle Dans Arles, hein, dans les contre-rimes, je crois, de Paul Jean Toulet. Hein. Et si je reprends Trop belle pour toi, le film que j'ai déjà signalé, hein, de Bertrand Blier, Depardieu, dans ce film, écoute la musique de Schubert et puis il dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce Schubert? Il le dit trivialement, hein, puisque la vie n'est pas du tout au niveau de Schubert. Hein. À ce moment-là, on peut refuser de pleurer même. Hein. On peut refuser le confort gratuit des larmes. Hein. Rimbaud dit dans Une saison en enfer, on ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre. Hein. C'est-à-dire dans cette insurrection justement contre l'idéal bafoué par la réalité de la vie, hein, eh bien, on est comme un mort-vivant. Il y a le refus du dénouement, le refus de la réconciliation incarné par les larmes, de ce que dans la tragédie, on appelle à la fin la catharsis, c'est-à-dire la purification du climat. Mais cette catharsis, c'est une négation, justement, de la réalité de la vie, c'est une exclusion du démonique. Brecht parlait du plaisir barbare de la catharsis dans la tragédie classique, vous voyez. Donc, méfions-nous. Nous parlons, par exemple, dans l'école du doux et tendre Racine. Mais Racine incarne, justement, les pulsions démoniaques. Voici comment Oreste s'exprime dans Andromaque de Racine. De quelque part ici que je tourne les yeux, je ne vois que malheur qui condamne les dieux. Méritons leur courroux, justifions leur haine, et que le fruit du crime en précède la peine. Vous voyez, hein. Donc là, il y a un refus postulatoire du dénouement, de l'apaisement, et un défi jeté à l'ordre des choses. Et même Phèdre de Racine ne regrette pas tellement son crime, mais elle regrette de ne pas en avoir profité. Hélas, du crime affreux dont la honte me suit, jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. Vous voyez, donc l'école nous parle de la douceur de Racine. Je ne suis pas sûr qu'elle ait raison de le faire. Donc, il faut refuser les solutions simples. Hein. Songez, par exemple, Thérèse, dans La Sauvage, de Jean Anouilh, dit « Il y aura toujours un petit chien crevé quelque part qui m'empêchera d'être heureuse. » Donc, le bonheur est impossible quand on songe à la réalité de la vie. Quant aux solutions simples dont je parlais, c'est le fait de croire qu'on va guérir quelqu'un en venant à son aide. Mais cela n'est pas vrai. Les larmes, dit René Char, méprisent leurs confidents. Hein. C'est-à-dire que venir en aide à quelqu'un, parfois, c'est faire une intrusion dans son intimité et violer, en quelque sorte, sa peine. Hein. Quand on enlève un bonbon, par exemple, à un enfant sensible, de rage, cet enfant, plus tard, pourra piétiner tous les bonbons, parce que le souvenir du malheur lui fera détruire tous les bonheurs. Voyez ainsi le personnage de Nastassia dans L'Idiot de Dostoïevski, le film de Kurosawa, inspiré de ce roman. Hein. Elle refuse la consolation que pourrait lui apporter Mushkin, hein, par excès de malheur qu'elle ressent en elle. Hein. C'est un refus, je dirais, postulatoire. Hein. La réalité, la vie, elle est un meurtre constant. Hein. Où sont les meurtriers, mon ami? Qui les condamnera quand le juge souverain en personne devrait passer en jugement? C'est ainsi que s'inspire le capitaine Ahab dans Moby Dick, film de John Huston, mais roman de Melville, évidemment, au départ. Hein. Songez que sous la surface étincelante de l'eau, hein, dans les océans, dans les mers, il y a des meurtres constants. Hein. Les poissons prédateurs, les uns les autres, etc., se dévorent. Voyez aussi la pièce de Tennessee Williams qui s'appelle « Soudain l'été dernier hein. ». Le héros Sébastien a vu le massacre des petites tortues dans les îles des îles Galapagos. Hein. C'est vrai que les tortues viennent pondre leurs œufs à l'intérieur de la plage. Hein. Et puis les petites tortues à peine écloses hein, ont quelques centaines de mètres à faire pour regagner l'eau où elles seront en sécurité. Mais pendant ces centaines de mètres qu'elles le font de façon très maladroite, les oiseaux prédateurs prédateurs fondent sur les petites tortues et les dévorent, vous voyez. Donc c'est un meurtre constant. Hein. Et alors Tennessee Williams écrit « Sébastien a vu la face de Dieu ». La face de Dieu. Hein. Dieu, c'est un massacreur, hein, comme le disait Maupassant et comme le dit aussi, ou le sous-entend aussi, Ionesco dans « Tueur s'engage hein. ». Cette face cruelle nous impressionne. Hein. Et alors, nous sommes faits, nous dit-on, à l'image de Dieu. Alors, nous sommes aussi cruels que lui, je ne sais pas. En fait, les églises nous disent que le monde est bon hein, et nous menacent de l'enfer pour après la mort. Mais on peut penser que c'est exactement l'inverse. Hein. En fait, l'enfer est peut-être ici-bas. Hein. Pour les cathares, par exemple, l'enfer, on le connaissait déjà. C'était la tribulation que l'on voit dans l'évangile selon Jean, par exemple, la clipsis en grec. Hein. Cette notion de tribulation, c'est l'équivalent à ce qu'on appelle en Inde le samsara, hein, c'est-à-dire l'enlisement dans la vie cruelle. Vous voyez, samsara. Hein. Et l'autre enfer, celui dont on nous menace pour après la mort, elle nous fait... il nous fait assez rire. Hein. Malherbe nous dit « Et si l'enfer est fable au centre de la terre, il est vrai dans mon sein », vous voyez. Objectivement, le top modèle, hein, c'est une insulte à la ménagère de banlieue. Cette ménagère qui est peut-être vieillie ou enlaidie, etc. Naguère, ben, Claudia Schiffer ou Cindy Crawford, des top modèles d'autrefois, ceux que j'ai connus, hein, et bien on peut dire qu'ils étaient insupportables à cette fameuse ménagère. Parce qu'on oublie, justement, dans cette beauté idéale qui est aujourd'hui photoshopée. Hein. Tout le monde sait qu'avec Photoshop, on peut lisser les visages, supprimer les rides, améliorer le contour de la silhouette. Tout cela n'a rien à voir avec la vie. La vie, elle est au contraire une espèce d'entropie, une espèce de refroidissement constant et une meurtrissure constante. Car tout ce qui vit vieillit hein, ou vieillira. Il ne faut donc rien excluer, hein. Il faut tout garder, je dirais. Hein. Alors, j'aime bien jouer sur les mots, je dirais « adieu la beauté », c'est-à-dire « la beauté appartient à Dieu » et « au diable la varice ». Voilà, on est variqueux. Bon, ça c'est le côté démoniaque. Voilà, eh bien, je vais vous laisser sur cette... comment dire, sur cette impression, hein, lisez, écoutez la chanson de Juliette Gréco, « Si tu t'imagines, fillette, fillette », etc., que ça durera toujours. Hein. Donc, c'est comme ça, la vie est comme ça, et toute culture complète explore ces deux pôles et refuse de se cantonner dans le pôle lumineux par rapport à l'autre pôle. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission pour une réflexion toujours sur ce qu'est l'homme symbolique et le combat de l'âme. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.